Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Bonsoir, il est 19h, bienvenue dans Qu'est-ce qui fait courir les gens, l'émission d'analyse pluridisciplinaire d'un sujet d'actualité. On est ensemble jusqu'à 20h. Ce soir, on a choisi de vous parler du traité TAFTA pour apporter un éclairage sur ce projet de commerce transatlantique qui se prépare actuellement dans l'ombre. Autour de moi, il y a Adélaïde et Ludivine. Bonsoir les filles.
Bonsoir.
Alors Adélaïde, tu commenceras par nous expliquer le point de départ du traité et son évolution jusqu'à aujourd'hui.
Exactement.
Et Ludivine, avec sa vision sociologique, analysera les rapports entre les acteurs de ce projet.
Ouais, je vais essayer.
Et je compléterai du coup avec du droit pour parler de sujets au cœur du traité TAFTA. On retrouvera bien sûr nos invités en fin d'émission. Monsieur Daniel Mirza, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie à l'université François Rabelais.
C'est ça.
Et Jean-Marie Bonnet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de l'association Attaque 37. Vous n'avez sûrement jamais croisé son nom, pourtant controversé, il fait de plus en plus parler de lui. Depuis juillet 2013, le TAFTA, Transatlantic Free Trade Agreement, en français Accord commercial transatlantique, est en cours de négociation. Donc il s'agit d'un traité pour la création d'un marché transatlantique de libre-échange, interbranche, entre les États-Unis et l'Union européenne, pour générer davantage de richesses et donc aller dans le sens de la croissance. Bien sûr, pour entrer en vigueur, le texte final devra être adopté en 2016 par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, puis signé par chaque pays. On vous l'explique ce soir avec nos analyses, suivies de notre interview avec Daniel Mirza et Jean-Marie Bonnet. On commence avec toi tout de suite, Adélaïde.
Oui.
Vous qui nous écoutez, chers auditeurs, vous allez comprendre le pourquoi du comment du TAFTA grâce à l'histoire du traité de ses débuts à aujourd'hui.
Ok, c'est parti. Donc, on le sait, depuis que les médias se sont emparés du cas TAFTA, ce projet s'oppose à de nombreuses véhémences de la part des mouvements sociaux et opinions publiques. Pourtant, ce programme a commencé bien avant que nous découvrions son existence, bien que sa forme fût différente. En effet, l'origine de TAFTA remonte à un an après la chute du mur de Berlin, pardon, en 1990, où le 22 novembre, la communauté économique, présentement l'Union européenne, ses États membres et les États-Unis ont signé la Déclaration transatlantique qui visait à intensifier la coopération entre l'Union européenne et les États-Unis. Le but principal était priorité d'ouvrir davantage les marchés à un système de commerce multilatéral et donc de rejeter le protectionnisme dont faisait et fait toujours preuve, dans une certaine mesure, le marché européen. Une autre étape du projet TAFTA fut le lancement du Transatlantic Policy Network, littéralement le réseau de politique transatlantique, pour une nouvelle fois renforcer les échanges entre l'Europe et les États-Unis, mais surtout effacer, voire dynamiter, les barrières douanières pour faciliter pas à pas l'adoption de TAFTA qui n'existe même pas encore à l'époque. Et là, vous commencez à cerner l'un des problèmes sous-jacents de ce programme. Les États se retrouvent à signer au fur et à mesure des traités permettant un libre-échange pour finalement ne plus pouvoir faire marche arrière au moment de l'arrivée du projet final. Seulement, les dates entre chaque étape sont éloignées. C'est en 1995 que le traité commence à prendre la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est la création du Transatlantic Business Dialogue, établi entre le ministère du Commerce américain et la Commission européenne. Son but est de défendre l'intérêt des multinationales de la zone transatlantique pour une nouvelle fois faciliter les échanges entre les deux continents. On remarque dès cette période que le pouvoir décisionnel pour l'adoption du traité TAFTA sera accordé en majorité à la partie privée et par conséquent aux lobbyistes. De plus, entre 1995 et 1997, l'accord multilatéral sur l'investissement est négocié dans le plus grand des silences par les 29 États membres de l'Organisation de coopération et de développement économique. L'AMI proposait une libération trop élevée des échanges et mettait en danger non seulement l'environnement, mais aussi le droit du travail. Dès sa divulgation au public, l'accord entraîna de vives protestations de la part du mouvement citoyen. Finalement, le projet fut abandonné en octobre 1998 suite à un rapport commandé par Lionel Jospin qui déclara le projet, je cite, « non réformable ». Finalement, on entendit reparler clairement de TAFTA en novembre 2011, un an après que la crise financière ait touché de plein fouet le monde entier. Un groupe de travail a alors été mis en place dans le but de trouver des solutions à cette crise par le biais de la croissance et l'emploi. Mené par Ron Crick, l'actuel représentant américain au commerce, et par Karel de Guch, qui était à l'époque commissaire européen au commerce. Seulement, Comme dit précédemment, les représentants des États ne permettent pas une entière transparence vis-à-vis des négociations. Ces représentants d'États, pour plus de partialité, bénéficient de conseillers. Seulement avec 90% appartenant à la partie privée et seulement moins de 6% dans le secteur public, on devine aisément vers quelle direction vont évoluer les clauses du traité. C'en est pour le moins alarmant que toutes les négociations sont faites dans le silence le plus absolu. Ce traité nous donne plus l'impression d'être une solution à un contournement des lois commerciales pour rendre l'Europe comme un immense supermarché, plutôt qu'une solution à cette crise qui endigue de plus en plus nos foyers. La crainte principale relative au TAFTA est compte tenu du caractère non réformable des accords déjà passés. C'est à terme que la souveraineté des États et l'intérêt général ne seront plus un obstacle aux intérêts privés et aux marchands qui portent les négociations attachées à TAFTA. D'ailleurs, nous ne savons pas dans les faits, compte tenu de l'opacité et de la multiplicité des accords déjà passés, si le TAFTA n'est pas déjà la loi d'aujourd'hui des pays.
Merci beaucoup Adélaïde et on écoute une petite pause musicale, c'est Stern & Kinder de Clan Carousel. l'auteur de ce truc. Avec toi, Ludivine, tu nous parles du rapport entre les multinationales et les États.
C'est ça, et en particulier, l'effet que ça aurait sur l'Europe, du coup.
Voilà, exactement. Donc entre, par exemple, les États-Unis et l'Union européenne, entre aussi les pro-TAFTA et les anti-TAFTA, même si rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Vas-y, je te laisse la parole.
Voilà, alors le TAFTA amènerait à la mise en place d'un nouvel ordre politique et économique qui aurait des effets néfastes, opérant des changements fondamentaux, le contrat commercial l'emportant ainsi sur le contrat social et les tribunaux arbitraux qui seraient alors mis en place l'emportant sur les lois nationales. L'abandon de la souveraineté intérieure des 27 pays membres de l'Union européenne laisserait place à une hégémonie du pouvoir américain sur le sol européen. Mais au fond, que sait-on du TAFTA ? La communication sur le sujet, comme l'a dit Adélaïde, est très restreinte, l'accès au dossier étant très réglementé et encadré. Pour Jean-Claude Paille, sociologue, la mise en place d'un tel traité liquiderait progressivement le pouvoir des citoyens et des États au profit des multinationales. En effet, le processus de mise en place de ce traité transatlantique va à l'encontre des valeurs véhiculées et du fondement même de l'Union européenne. Alors que le marché commun européen est une structure économique basée sur la libéralisation des échanges et des marchandises, le traité transatlantique s'appuie, lui, sur la primauté du droit américain. Il s'agit d'abord d'une construction politique avant toute chose. L'Europe se verrait absorbée petit à petit dans l'espace économique et juridique des États-Unis. Le traité transatlantique fragiliserait les protections de l'environnement et du consommateur avec des exportations des États-Unis vers l'Europe de produits OGM ou de viande aux hormones par exemple. Mais il risquerait également d'entraîner des pertes d'emplois. Pardon. Comme on l'a déjà vu, il renforcerait du coup le pouvoir des multinationales face à celui des démocraties, mais il menacerait également quelque part les libertés individuelles, en donnant par exemple la possibilité aux entreprises d'avoir accès aux données personnelles des citoyens européens. Alors qui est pour, qui est contre ? Parmi les défenseurs du traité transatlantique, on trouve les entreprises, alors évidemment pas n'importe lesquelles, la droite libérale, les républicains, l'actuel président de la République François Hollande, qui est en pourparlers avec Barack Obama en ce moment. Certaines confédérations syndicales américaines et européennes restent prudentes, sans être pour autant hostiles aux négociations. Le Parti socialiste l'est également, mais il est perdu entre une base hostile et le gouvernement actuel, approuvant globalement le traité. Parmi les opposants, on trouve des ONG, des formations de gauche comme le Parti communiste ou Europe Écologie Les Verts, le Front National, ainsi qu'une partie des syndicats qui se regroupent entre trois motivations plus ou moins communes. Tout d'abord, l'anti-atlantisme. Le partenariat déposséderait l'Europe de son indépendance face à une puissance dominante. Ensuite, un combat plus ou moins commun contre les multinationales. Et enfin, la protection du modèle politique et social européen. Alors, tout n'est pas perdu d'avance. Le texte final devrait être adopté courant 2016 par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Il est encore temps, même si ça semble un peu trop tard, d'une prise de conscience plus importante et plus globale. Je suis assez étonnée de me rendre compte que peu de personnes se tiennent au courant concernant un tel traité. Bien que tout ne soit pas gagné pour le traité transatlantique, il y a le risque que si les négociations n'atteignent pas leur terme, ils reviennent dans quelques années sous une autre forme. Il faut donc rester vigilant et se tenir informé.
Bien, merci beaucoup Ludivine pour cet éclairage. Avant de retrouver nos invités qui sont avec nous dans le studio, je voudrais juste vous parler de deux points qui sont vraiment au cœur de TAFTA. Il s'agit des normes commerciales et de l'arbitrage des conflits par les tribunaux arbitraux. Alors rappelons-le, l'enjeu du traité est donc de créer un marché transatlantique, on l'a compris, entre les États-Unis et l'Union européenne en levant les restrictions d'importation et d'exportation des deux continents. Comment cela est-il possible ? Eh bien déjà en supprimant les droits de douane pour inciter le transport des produits et des services dont la circulation serait ainsi fluide, coûterait moins cher puisqu'il n'y aurait plus de taxes pour qu'on passe un produit d'un pays A à un pays B et inversement. Et aussi, condition suprême, en harmonisant les normes commerciales des deux espaces. Ainsi, les produits et les services des deux continents pourront être commercialisés sur l'ensemble du marché transatlantique. Alors, les normes commerciales, concrètement, c'est quoi ? On peut en distinguer deux types. D'une part, les normes dites techniques. Imaginons une voiture importée des States destinée à être vendue en France. Eh bien, si elle n'a pas la taille de pare-choc que lui impose la réglementation française, elle sera invendable en France. Et voilà qui ne sert pas vraiment la croissance. Et d'autre part, les normes sanitaires, dites les normes sanitaires, pardon, alimentaires, etc. Mais vous vous en doutez bien, les domaines impliqués sont vraiment nombreux. Normes commerciales et sanitaires, puisqu'avant d'être vendus, les produits sont traités. Normes agroalimentaires, puisqu'on ne vend pas que des voitures, on vend aussi des fruits, des légumes, par exemple. Et puis normes juridiques, puisque le commerce a lui aussi ses propres codes nationaux. Normes culturelles, parce qu'on vend aussi des places de théâtre, oui, de musées, d'expositions. Bref, on n'a pas la même façon de vivre des deux côtés de l'Atlantique. Et enfin, normes environnementales, puisque on n'émet pas le même taux de CO2, nous, Européens, que nos chers voisins. Et donc, c'est bien cette deuxième catégorie de normes, hein, les normes sanitaires, environnementales et agroalimentaires, qui posent problème parce que, tout simplement, elles sont très différentes entre les deux continents. Du côté de l'Union européenne, elles sont beaucoup plus strictes. Prenons l'exemple du poulet lavé au chlore. C'est un exemple qui revient beaucoup dans les arguments des anti-TAFTA. S'il est autorisé à la vente aux États-Unis, il n'est pas commercialisé aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Même cas de figure pour le bœuf aux hormones américain élevé, élevé avec du ractopamine pour booster sa croissance, approuvé par le Codex. Eh bien, si TAFTA voit le jour, on pourrait se retrouver demain avec ces produits dans nos assiettes. Et là, ça coince parce que personne ne veut se mettre d'accord ni faire des concessions pour l'instant sur ses propres règles. L'Union européenne veut garder cependant des lignes rouges quand même sur ses normes sanitaires et environnementales. Pourtant, CropLife, vendeur de graines et de pesticides international, assure que la régulation européenne sur les pesticides représente moins 40% de ses ventes potentielles. Et de son côté, l'Amérique n'a pas l'intention de céder sur les normes agroalimentaires, par exemple. Les membres du Sénat ont l'intention de lever même les barrières européennes sur les importations de bœuf traité dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils sont déjà presque sûrs de faire plier l'Union européenne sur les questions sanitaires, notamment en ce qui concerne la pratique de traitements pathogènes dans les transformateurs de volailles. Et puis, de toute façon, l'Union européenne utilise déjà l'acide lactique sous la pression américaine. Bon, donc ça ne fait pas peur aux Américains qui ont déjà commencé à demander l'approbation d'autres traitements cette année, comme le peroxyacide, un autre traitement pathogène. Et puis, que penser de l'harmonisation des émissions de carbone? Quant à augmenter les normes du bien-être animal, les États-Unis, où aucune taille des cages minimum n'est imposée pour les animaux, sont encore catégoriques, il n'en est pas question. En gros, ce que veulent les États-Unis, c'est mettre leurs pratiques réglementaires en phase avec le Codex, et non le contraire, parce que c'est l'Union européenne qui est championne de la réglementation, et pas l'inverse, et que les normes, ça fait des charges supplémentaires qui haussent les coûts et qui amoindrissent le profit. Mais au fait, le but du traité TAFTA n'était pas justement de faire de la croissance. Et puis en gros, aussi grosse interrogation sur ce qui restera interdit ou autorisé, puisque de toute façon les négociations sont en cours en attendant le texte final. C'est donc un bras de fer qui s'engage entre les États-Unis et l'Union européenne pour savoir qui de l'un ou de l'autre cédera telle ou telle norme et fera des concessions. Mais en règle générale, c'est toujours le plus fort qui gagne au bras de fer. Et question force, on peut dire que ce sont les entreprises américaines qui ont le plus de pouvoir et surtout les secteurs gagnants. Alors bien sûr, cette harmonisation est prévue d'être consolidée par un système de règlement. Les tribunaux arbitraux, dont je vous parlais tout à l'heure, le deuxième point. Les tribunaux arbitraux d'arbitres constitués d'arbitres neutres privés, mais bon, tels que des avocats d'affaires habitués des intérêts industriels, des lobbyistes pour régler les conflits du coup entre les entreprises harmonisées commercialement et les États qui gardent leur propre justice nationale. Une sorte de cour internationale qui protégerait les investisseurs internationaux contre les atteintes publiques de gouvernements locaux, la protection des investissements. Une justice qui favoriserait en fait les intérêts commerciaux, parce que dans ces tribunaux arbitraux, seules les entreprises, personnes privées, pourraient attaquer l'État, personnes publiques, mais pas le contraire. Et dans les zones de libre-échange où les tribunaux arbitraux existent déjà, l'expérience montre que les règlements nationaux en prennent toujours pour leur grade. Juste par exemple, l'Uruguay et l'Australie sont menacés d'une amende de plusieurs milliards de dollars par Philip Morris à cause de cette campagne politique anti-tabac qui avait été jugée discriminatoire. Et c'est du coup l'État qui avait lancé la campagne, qui avait lancé l'arrêt de la campagne. Donc d'un point de vue commercial, l'harmonisation des normes commerciales va dans le sens de la croissance, puisqu'on en voit les barrières qui contraignent pour l'instant le marché, elles permettraient d'accélérer le processus des échanges. Seulement, si on regarde les conséquences sanitaires, agroalimentaires et environnementales que le traité pourrait avoir, TAFTA semble moins positif, à moins qu'on adopte les règles de notre chère Union européenne. Oui, mais ne sont-elles pas finalement un frein à la croissance? Et l'intérêt de TAFTA n'est-il pas ailleurs? Donc TAFTA, pas TAFTA, c'est l'avenir qui le dira. Et pour l'heure, on fait tout de suite une petite pause musicale, histoire de mettre des choses un peu plus légères. C'est Lonely Boy de Radio Campus Tour, Lonely Boy de The Avenir.
Well, I'm so above you, and it's fine to see. But I came to love you anyway. So you tore my heart out, and I don't mind bleeding. Any old time you keep me waiting, keep me waiting.
Nous retrouvons donc maintenant nos invités. Daniel Mirza, bonsoir. Donc, comme bonsoir. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes professeur d'économie à l'université François Rabelais. Vous êtes aussi chercheur pour le CEPI, si je ne me trompe pas.
Entre autres.
Voilà. Entre autres, vous avez travaillé sur, par exemple, le commerce européen dans le monde, le commerce international de biens et de services aussi. Et Jean-Marie Bonnet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de l'association Attaque Touraine. L'antenne
oui.
Tourangelle de l'association nationale ATTAC. Donc brièvement, pour situer nos auditeurs, ATTAC, c'est un mouvement altermondialiste pour une alternative au monde capitaliste actuel, pour une société solidaire et respectueuse de l'environnement. Et pour revenir à votre association, ATTAC 37, Par rapport au traité TAFTA, vous souhaitez informer les citoyens sur le TAFTA et ses conséquences. On en saura plus.
Exactement.
Voilà. Alors, je vais commencer déjà par une question toute simple, Monsieur Mirza. Pourquoi l'Union européenne et les États-Unis veulent-elles mettre un tel traité aussi conséquent pour l'économie mondiale ?
Honnêtement, je n'en sais trop rien, parce que le gros du commerce international se fait par ces deux blocs. Ces deux blocs font grosso modo autour de 40% de la part de marché ensemble du commerce international. Ils ont déjà abouti à un grand nombre de baisses de barrières tarifaires, de tout un tas de produits. Pour tout vous dire, les droits de douane sont à peu près à 3% en moyenne. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, un produit qui part d'un pays européen vers les États-Unis ou vice-versa, qui est à 100 euros, il se retrouve à 103 euros donc chez le consommateur américain, ce qui n'est rien, presque rien. Quand on voit donc les droits de douane aujourd'hui, elles ont fortement baissé. Il y a beaucoup, donc ça a créé beaucoup de commerce. Déjà, et là on se demande pourquoi on veut aller plus loin. Alors quand on cherche un petit peu, on se rend compte que effectivement il y a des normes qui subsistent. Il y a des droits de propriété intellectuelle donc que veulent que ce soit harmonisé entre les deux blocs, les entreprises, notamment les grosses entreprises, celles qui font de l'innovation. Et donc c'est pour ça aussi qu'on pense que justement que c'est l'opportunité de faire quelque chose qui normalement aboutirait à un gain pour les deux blocs. Mais en fait, quand on réfléchit bien, autant les autorités des deux côtés de la frontière, j'allais dire deux côtés de l'Atlantique, sont très très persuadées que ça va créer énormément de gains, autant les économistes ne sont pas persuadés que ça créera autant de gains. Il y en a même qui vous diront que ça crée ça détruit plutôt que ça crée de la croissance. Mais il y a une espèce de... en fait, quand on regarde un peu les études là-dessus, on voit bien que ce qui ressort des études, c'est qu'il y aurait éventuellement un gain dans les 15 ans à venir, mais c'est un gain très petit. Et ces études qui vous disent qu'il y a un gain très petit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ils évaluent ça à, de l'ordre de 0,5 à 2% d'augmentation de PIB à l'horizon 2025. Donc ramené à 2014, sur 14 ans, 0,5 à 2% de PIB, c'est 0,02, 0,03 de PIB de gagné par an. C'est pas grand-chose. Et en plus, ce qu'ils font, c'est que, en fait, ces gens-là qui produisent ces calculs très sérieux, ils le font sur une partie des mesures qui seront prises. L'autre partie, on n'en sait rien. Et en particulier, ils le font sur la baisse des normes, bien, mais ils ne tiennent pas compte, mais parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les données pour cela, ils ne tiennent pas compte de l'augmentation des prix qui va être consécutive à cette augmentation de droits de propriété pour les innovateurs, d'un côté, donc pour le consommateur, c'est ça. Et deuxièmement, ils ne tiennent pas compte notamment de cet impact de l'ISDS, donc c'est le fameux règlement des différends qui peut avoir quelques impacts. Donc cette protection supplémentaire des entreprises et donc ce gain pour les entreprises multinationales qui est connu par tout le monde, en tout cas estimé comme étant qui serait positif par tout le monde, ce gain-là peut être au détriment des fois du consommateur. Mais j'aimerais quand même modérer mes propos et les vôtres, parce que vous êtes quand même très très en défaveur du TAFTA. Moi je ne serais pas aussi dur que vous là-dessus, hein, parce que moi je pense des accords, il y en a eu depuis maintenant une quarantaine d'années, et de plus en plus des accords bilatéraux entre régions, simplement parce que l'OMC ne fait pas son travail, parce qu'elle n'a pas fait son travail d'essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose d'équilibré en tous les pays du monde. Alors certains pays ont choisi d'aller plus vite que l'OMC et d'aller plus vite en libéralisant leurs échanges. Alors ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, il y a eu énormément d'accords commerciaux, dont des accords qui tiennent compte également donc des différents donc sur les investissements, qui tiennent compte de l'arbitrage, ainsi de suite. Alors ça, Depuis des années, ça existe. Et on voit depuis des années que ce n'est pas les multinationales qui ont pris le pouvoir. Il y a encore des États qui arrivent à des États démocratiques qui arrivent à mettre en place des politiques, et tant mieux et heureusement. Donc tout ça pour vous dire que même si ça a lieu, moi je pense, contrairement j'ai l'impression à vous, moi je pense que ce n'est pas la catastrophe, mais ce n'est pas du tout la panacée non plus. Voilà.
Alors justement, Monsieur Bonnet, vous aviez quelque chose à dire. Je voulais juste vous poser une question par rapport aux risques pour l'agroalimentaire et l'environnement. Parce que oui, Monsieur Mirza nous dit que du coup, ce ne serait pas la catastrophe. Mais du coup, vous, qu'est-ce que vous pensez des risques pour l'agroalimentaire et l'environnement ?
Alors, moi, je voudrais revenir sur le pourquoi, pourquoi ils veulent signer quelque chose.
D'accord.
Alors, je crois qu'il faut s'inscrire dans l'historique qui a été fait par... Ludivine,
Adélaïde. Il n'y a pas de problème.
Par Adélaïde. À l'heure actuelle, sont en train d'être négociés le PTT, qui est la même chose que le TAFTA, mais pour 11 pays d'Asie et d'Amérique. Nous avons donc d'un côté le TAFTA, de l'autre côté le PTT. En même temps, l'Europe, comme tu l'as dit, hein, l'Europe est en train de négocier des accords de commerciaux scandaleux. Scandaleux, hein, néocolonialiste avec les pays d'Afrique, et personne n'en parle alors qu'on a une responsabilité énorme. Hein. Alors, pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'on est dans une société libérale et que l'on veut poursuivre sur une voie libérale, c'est-à-dire supprimer tout ce qui fait obstacle au commerce. Ce n'est pas les droits de douane. Hein. Mais alors, je vais revenir sur l'alimentation et l'agriculture, parce que, par contre, il y a des vrais risques. Hein. Mais pour les autres... Daniel l'a dit, les droits de douane, c'est peanuts, rien du tout. Donc, quel est l'objectif ? À l'heure actuelle, on échange avec les États-Unis. On n'est pas dans une société, il n'y a pas de mur de Berlin entre les États-Unis et l'Europe. On échange, il y a des investissements, la France est même très bien placée en matière d'investissement direct à l'étranger, y compris de la part des États-Unis. Donc, quel est l'objectif ? L'objectif, c'est de supprimer les barrières. Les barrières, c'est ce que vous avez dit, c'est tout ce qui concerne notre modèle social et notre modèle économique. Une barrière, tiens, un exemple, Suez a attaqué l'Égypte sur la base d'un traité du même type lorsque l'Égypte a augmenté le SMIC. Vous voyez, on a de quoi parler. On a de quoi parler, il y a un traité du même type, l'ALENA, qui a été signé entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. 20 ans d'expérience, 1 million de chômeurs, des migrations énormes de la part des gens qui ont quitté le Mexique, qui sont venus illégalement aux États-Unis. Et un appauvrissement des conditions de travail et des rémunérations des deux côtés de la frontière, et Mexique et États-Unis. On a un autre exemple, le CETA, c'est le traité qui vient d'être signé avec le Canada, qui n'est toujours pas ratifié, souhaitons qu'il ne soit jamais. Le CETA nous dit déjà qu'est-ce qu'on a à craindre. Par exemple, en matière alimentaire, on nous dit on va protéger, par exemple, les appellations d'origine contrôlée. Ah, l'Europe admet cette notion d'appellation d'origine contrôlée. Sauf que dans le CETA, on a la liste maintenant, la moitié des AOP françaises ont disparu. C'est-à-dire le Canada veut bien un certain nombre de choses, le Roquefort, ça devrait aller, mais il y a plein d'autres AOP qui protègent une production locale qui va disparaître. Ou même, pire, il y a des AOP qui vont être adoptées, mais sans l'obligation d'avoir des produits locaux. Par exemple, on pourra faire du Roquefort avec du fromage qui sera importé d'Italie, d'Espagne ou de Finlande. Bon, vous voyez bien que nous, ce qui est recherché par les traditions européennes de culture, c'est le maintien d'une vie au pays, d'une certaine conception de l'agriculture paysanne. Et là, on se retrouve en définitive à ce que les Américains aiment bien, c'est-à-dire les marques. On aura une marque Roquefort. Et à partir de là, on fera du Roquefort n'importe où. Alors, je voudrais insister sur une chose quand même par rapport à ce que vous dites, et m'excuserai de vous contrarier. C'est pas tant l'Europe contre les États-Unis ou les États-Unis contre l'Europe. Il est clair que ce sont les multinationales contre les peuples. Dans ce traité, pour le TAFTA, c'est l'Europe qui est demandeuse. Hein. Les États-Unis, ce qui les préoccupe pour l'instant, c'est le Pacifique. Pourquoi ? Parce que ça va leur servir. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est isoler la Chine. Ils veulent absolument que les normes de production et les normes de service soient les leurs. L'Europe court après les États-Unis. Ah. Alors, je vais revenir à la question justement agricole. Si le TAFTA est signé, c'est le suicide de l'agriculture européenne, et plus encore de l'agriculture française. À l'heure actuelle, alors là, on a des taux de tarifs douaniers qui sont élevés, qui vont jusqu'à 200%. Seulement, vous savez comment ils font quand ils négocient les lignes tarifaires, il y en a des centaines de lignes avec, je sais pas, l'épaule de mouton 2%, la côte de bœuf 3%, etc. Et des trucs qu'on n'échange pas à 0%. On fait un trait en bas et on dit voilà, en moyenne, ça fait du 3%. Pas du tout, s'il y en a où c'est 200%, c'est qu'on veut protéger ces productions. Or, on sait déjà que le coût de production états-unien est 20% inférieur au coût de production européen. Bon. Donc, on a déjà 20% dans la vue. Ensuite, on a les droits de douane qu'on supprime, ce qui risque de monter à 25%. Et en plus, il y a le mode culturel. Vous l'avez souligné, le bien-être des animaux n'existe pas dans la culture et dans peut-être leurs petits chiens, mais pas pour les animaux d'élevage aux États-Unis. Alors que nous, ça crée des obligations. Si pour l'élevage de poules, on met des cages plus grandes, c'est sur la base du bien-être des animaux. Donc ça conduira, et c'est pas par hasard qu'on a une trentaine de projets en cours, dont ici celui de Mont d'ailleurs, de super exploitation, comme la ferme des 1000 vaches, qui fait qu'on arrive à une agriculture industrielle. Alors, les agricultures industrielles, c'est des animaux plus fragiles, c'est des animaux qu'il faut traiter aux antibiotiques, c'est des animaux qui sont quand même maltraités, et qui, paradoxalement d'ailleurs, et qui, dont l'équilibre économique à l'heure actuelle est assuré en réalité par les subventions de la Commission européenne pour tout ce qui est incinérateur, etc. Et je m'arrête. Je repasse.
Alors, justement, vous disiez... Monsieur Bonnet, que du coup, ce n'était pas une histoire de rapport de force entre les États-Unis et l'Union européenne, mais pourtant, on peut quand même se poser la question de savoir si économiquement, il y aurait un gagnant ou un perdant avec ce traité, monsieur Mirza. Est-ce que vous pensez que qui des États-Unis ou de l'Union européenne a le plus à gagner économiquement avec ce traité ?
Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas ennuyer donc les gens qui nous écoutent. Mais je vais faire peut-être simple. En fait, tout dépend des secteurs de production. On ne peut pas dire, bah, tiens, les États-Unis seraient les grands gagnants, les Européens les grands perdants, ou vice-versa. Il y a des secteurs où on est mieux loti. On a une espèce d'avantage comparatif, on a des ressources qui font qu'on produit mieux qu'eux, avec un rapport qualité-prix qui est indéniablement meilleur, et puis vice-versa dans d'autres secteurs. Donc voilà, donc c'est pas ici l'idée, c'est pas de dire qui va gagner, qui va pas gagner, mais je préfère plutôt parler de gains ou de pertes par rapport aux consommateurs et européens et américains, d'une part, ou de gains ou de pertes pour les producteurs, mais aussi pour les salariés ou pour les emplois. Ça, on peut plutôt parler de gains ou de pertes de ce point de vue-là. Et quand on regarde un petit peu, on fait la balance, on se rend compte que pour le consommateur, quand on fait tout simplement un calcul de coin de table, le consommateur, lui, il va peut-être gagner en termes de prix sur certaines normes qui vont baisser, mais de l'autre côté, il va perdre en termes de protection sanitaire, ça c'est évident. Alors, la Commission européenne, là j'étais en contact un petit peu avec des gens de la Commission qui me disaient « mais non, on va essayer de faire tout, on va protéger, il va y avoir de la protection de soins de loi, tout ce qui est sanitaire, on n'y touche pas, ça reste à voir, ça reste à démontrer ». Par contre, ce qui est vrai, ce qui a l'air d'être vrai, c'est que tous les biens culturels, apparemment, et les services culturels, là, ils ne vont pas y toucher. Là, ils ont fait une annonce forte là-dessus. Je pense vraiment qu'ils vont y toucher. Mais pour le reste, je ne sais pas trop. Donc, pour le consommateur, comme je dis, je ne vois pas tellement de gains, si ce n'est peut-être une baisse, comme je dis, des prix de certains produits, mais compensée aussi par une augmentation des prix des médicaments, par ailleurs. Si on augmente la protection... donc des innovateurs, et ben l'un dans l'autre, on ne sait pas trop si le consommateur des deux côtés de l'Atlantique va perdre ou va gagner. Du côté du producteur, lui, les multinationales probablement seraient mieux protégées, devraient pouvoir gagner. Mais là encore, je modère, les producteurs, les petits producteurs devraient, qui sont potentiellement exportateurs, devraient avoir un meilleur accès à un grand marché qui est le marché américain. Il faut dire les choses aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a des producteurs qui aujourd'hui n'arrivent pas du tout à exporter sur le sol américain. Pour tout un tas de raisons, mais la raison essentielle, quand vous parlez avec eux, j'en connais un qui est maintenant devenu un gros exportateur pendant 3 ans, exportateur de vin. Pendant 3 ans, il a vraiment, vraiment, vraiment eu du mal à rentrer sur le sol américain. Pourquoi ? Parce qu'il y a des normes drastiques sur l'entrée du vin français aux États-Unis, n'importe quel vin d'ailleurs, et il aurait fallu faire tout un tas de paperasseries, les monter, il est devenu expert en ça, mais il a passé 6 mois de sa vie professionnelle à essayer justement de trouver la parade et de rentrer. Donc vous voyez bien, si on réduit ces normes pour ces petits producteurs, ces petits exportateurs, c'est aussi un accès au marché. Donc il faut pondérer un petit peu, mais je ne nie pas le fait que pour les multinationales, ça sera une meilleure protection. Je reviens quand même à l'ISDS. Donc c'est l'histoire de l'arbitrage des règlements des différents. Là aussi, il faut faire attention. C'est vrai ce que racontait Jean-Marie sur le fait qu'il y a des entreprises maintenant qui, et puis je pense que c'est, je crois, Adélaïde ou...
Ludivine.
Qui l'a dit. Ils ont bien dit que maintenant, les entreprises peuvent aller dans les cours des tribunaux d'arbitrage et poursuivre les États. C'est vrai. Et ça sera, a priori, si c'est signé comme ce sera, c'est possible que ça sera le cas. Mais je tempère en disant qu'il y a eu des accords jusqu'à maintenant et beaucoup d'accords ont prévu cela. Et il se trouve qu'il n'y a pas eu tellement d'effets. Il y a eu quelques cas de figure qui ont été rapportés par-ci, par-là. Mais attention, regardez l'histoire d'Ecomove en France. Ecomove en France, vous voyez ce que c'est. C'est tous ces gens qui ont, de cette grosse entreprise qui, dernièrement, l'année passée, qui a été commandité par le gouvernement pour mettre en place toutes ces barres-là sur les autoroutes pour détecter les CO2. Donc Ecomove demande aujourd'hui d'être défrayé pour tout l'investissement qu'elle a fait, à hauteur de 850 millions d'euros à l'État. Et ils ont négocié, et évidemment, l'État va les payer. Donc vous voyez bien que quand on fait un investissement aussi élevé que celui-là, c'est normal s'il y a un changement de politique gouvernementale et que le gouvernement dit du jour au lendemain, finalement, on vous a commandé quelque chose, mais finalement, avec ce changement de politique, je ne veux plus, j'ai plus besoin de vous. Évidemment, il faut les défrayer, il faut les compenser. C'est ce que demandent les entreprises. Elles demandent une compensation. Elles ne demandent pas une remise en question de la politique démocratique des pays. Elles demandent juste à être compensées des investissements passés. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas non plus faire toute une histoire autour de ça. Attendez, on est quand même encore dans des pays démocratiques et on le restera, je pense, pour longtemps.
Bien sûr. Merci. Et Adélaïde, Ludivine, décidément, on n'arrive pas ce soir. Ludivine, tu avais une question.
Alors,
pour
ouais, les invités. J'ai une petite question, mais je vais vous laisser intervenir. Jean-Marie, je vois que vous vous agitez un peu depuis tout à l'heure. Vous voulez intervenir ?
Ah, oui, monsieur.
Allez-y.
Notamment sur le tribunal arbitral. Dans les textes, pour nous rassurer, ils nous le disent la capacité des États à réglementer sera réaffirmée. Je suis atterré. Je ne sais pas s'il y a des juristes ici. Mais qui
la capacité des
États à réglementer et réguler sera affirmée par le traité. Je me demande comment un homme politique, quel qu'il soit, ou un fonctionnaire, peut tolérer une phrase pareille. La réglementation résulte de la loi. La loi est le fait de la volonté générale du peuple, et pas des multinationales. Vous vous rendez compte, on va signer un traité où les multinationales vont nous autoriser, parce que ce n'est pas les États-Unis qui vont nous autoriser à réguler, ce n'est pas l'Europe qui autorise les États-Unis à réguler, à réglementer, ce sont les multinationales. On va signer un traité pour dire que les multinationales autorisent les États à réglementer. Alors moi je bondis sur les SDS, parce que alors on a une quantité énorme de jurisprudence, hein. Un désastre pour des États. Je crois que c'est le Prague qui a quand même versé la totalité de son budget pour la santé et qui a été versé en indemnisation. Alors au départ, il n'y en a pas beaucoup. C'était inventé pour ces tribunaux arbitraux. C'était inventé pour des pays où il n'y avait pas, notamment d'Amérique latine, d'Afrique, où il n'y a pas de système juridique. Dans les années 50, 60, il n'y a pas de système juridique. Donc ça garantissait une légitime indemnisation des entreprises. Mais à l'heure actuelle, les systèmes, que ce soit les États-Unis, que ce soit tous les pays d'Europe, et justement, tu cites l'exemple d'Ecomove, Ecomove n'a pas eu besoin de l'ISDS. Les systèmes juridiques qui existent dans chacun des pays permettent à toutes les entreprises, à tous les investisseurs, y compris étrangers, de se faire indemniser. La grosse différence qui est fondamentale, c'est quand un juge, aujourd'hui, va prendre une décision, il va la prendre en considérant le traité, mais aussi les lois de protection de l'environnement. Hein, par exemple, il ne va pas considérer que le principe de précaution, il va le mettre en... qui n'est pas dans le traité, mais qui va le prendre en compte, puisque c'est dans notre constitution. Il va prendre en compte le droit social, le droit du travail, alors que tous les arrêts des ISDS, donc des traités commerciaux, ne prennent en compte, on l'a vu dans le cadre de l'OMC, hein, ne prennent en compte que le traité commercial. Donc c'est dire, par exemple, oui, effectivement, ça c'est pas normal, mais c'était pas prévu dans le traité commercial. Et donc, vous voyez, il y a un champ qui se restreint. Et alors, il y a un transfert de la légitimité à émettre des normes aux multinationales. Mais moi, ce que je crains, parce qu'à l'heure actuelle, vu les réactions hein, face à cet ISDS, un certain nombre de pays le refusent. On nous dit que ce n'est pas possible de faire un traité sans ce cas. Le Brésil fait des traités de libre-échange sans ISDS. Donc, là, c'est clair. L'Europe s'est sentie un peu morveuse et elle a lancé une consultation. Hein. 97% des gens qui ont répondu étaient défavorables à l'ISDS. Alors, l'Europe a dit, oui, bah, puisque c'est comme ça, on va considérer que tous ceux qui sont dans une association, et sont à travers toute l'Europe, ils appartiennent à ATTAC, par exemple, au hasard, et bien ça ferait une seule réponse. C'est un peu une manière de trafiquer les chiffres, quoi. Et alors ils disent, non, mais on va faire un tribunal. Mais ce n'est pas la peine. Les tribunaux commerciaux, les tribunaux qui mettent en cause la légalité, etc., existent. Ça s'appelle le droit public, et ça s'appelle aussi les procédures judiciaires lorsqu'il y a abus de pouvoir.
Juste pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez préciser l'ISDS?
Oui. Alors, c'est investisseur, État... règlement des différends, c'est voilà. le règlement des différends.
Investor State, IS,
Settlement.
Settlement.
Voilà. Mais vous l'avez dit, hein, ça marche que dans un sens. Et par rapport aux procès qui ont déjà eu lieu, les États-Unis n'ont jamais perdu un procès en ISDS.
Oui, j'ai une petite question. Alors, c'est vrai que ça ne s'adresse pas à l'un d'entre vous en particulier. J'ai peut-être une vision un petit peu manichéenne de la chose, mais je voulais savoir si la mise en place d'un marché commun euro-américain serait irréversible.
Étant donné donc toutes les accords, tous les accords qui ont été signés jusque-là sur les 40 dernières années, étant donné justement l'histoire, on peut penser qu'aujourd'hui, si jamais on signe quelque chose, ça
c'est
devrait être
plus ou moins définitif. Quoi.
A priori.
C'est même plus assassin que ça. Vous avez dit, hein, je ne sais pas laquelle d'entre vous l'a dit, ils reviendront. Je vous rassure, hein, mettez ça dans votre tablette.
C'est une autre forme, oui.
Ouais. Mm. Ils reviendront. Preuve en est, c'est qu'il y en a un autre qui est déjà en cours, un autre traité de même nature qui porte sur les services, qui concerne, je crois, 70 États, mais pas uniquement les États-Unis, qui s'appelle le TISA. Hein, c'est le traité sur le commerce des services qui est en train d'être négocié en Suisse, à Genève. Et dans le TISA, il est prévu que même si les négociations n'aboutissent pas, le contenu des négociations restera secret pendant 5 ans. C'est étonnant quand même. Et à chaque fois, il y a des dispositions qui font que, par exemple, si vous prenez une disposition, même si le traité est arrêté, tu le disais, hein, même si, admettons, on casse le traité dans 2 ans, eh bien, certains dispositifs, il est déjà prévu qu'il faut qu'ils durent 20 ans. Donc tout est fait pour nous piéger, pour qu'on ne puisse plus bouger.
Adélaïde.
Moi, j'avais juste une petite question, donc ça s'adressait à vous, Monsieur Bonnet, en particulier. Donc, vous faites partie de ACTA, qui est un groupe qui lutte contre TAFTA. J'aurais voulu savoir, en fait, c'était quoi vos angles, entre guillemets, d'attaque pour lutter contre le traité? Parce que, on n'en entend pas vraiment parler, comme du traité. Donc, si les auditeurs étaient intéressés, quels sont vos angles, vraiment, pour lutter, pour en parler? Est-ce que vous faites des conférences, du tractage, des choses?
Alors, ce que nous faisons, alors, vous le dites, hein, on n'entend pas parler, il y a une négociation au mois de juillet, vous ne l'avez pas vu dans la presse. Hein.
Non.
Tout est fait dans le secret, et qui plus est, encore plus secret, puisque Mme Malmström, qui est la commissaire européenne qui mène ces négociations, a dit qu'elle ne communiquerait plus au gouvernement les informations, parce qu'il y aurait des fuites. C'est comme ça qu'on a informé, c'est par les fuites. Hein. Pour vous dire, les députés qui veulent savoir comment se déroulent les négociations sont obligés d'aller dans une salle sécurisée, dans les ambassades américaines ou au Parlement européen, d'y aller seul, sans prendre de notes, sans enregistrement, sans faire de copie. Vous vous rendez compte, c'est nos représentants du peuple qui vont voir. Alors, on nous dit, c'est pour préserver le secret des délibérations. Il y a la NSA qui a déjà fouillé dans les poches de tous les présidents d'Europe et de tous les parlementaires. Quelle est la confidentialité? Ou alors, il faut que l'Europe soit confidentielle avec les propositions des États-Unis et pas l'inverse. Alors, que faisons-nous? Alors, nous, il faut informer. Vous avez évoqué l'AMI tout à l'heure, hein, l'accord multilatéral que Jospin a refusé. C'est quand on a commencé à en parler, que les peuples se sont emparés de la question. D'ailleurs, notre président de la République, la seule chose qu'il a dite sur le TAFTA, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est quand il est allé voir Barack Obama, et il a dit « signons vite, parce qu'après les gens, ils voient ce que c'est, ils prennent peur ». C'est quand même rassurant. Donc notre action, c'est informer, informer. Alors, ATTAC est à disposition. Vous voulez faire, on l'a fait déjà, hein, ça fait déjà 18 mois au moins qu'on est dessus, une réunion avec 20 personnes en commune rurale de... même moins d'ailleurs, du département, on se déplace et surtout on a créé avec une quinzaine d'associations, hein, de partis politiques et de syndicats, une association qui s'appelle Stop TAFTA. Et donc vous pouvez aller sur internet, vous tapez Stop TAFTA, c'est bien parce que là vous verrez tout de suite, notre pouvoir c'est l'information des citoyens et après ça les citoyens ils interpellent leurs députés nationaux, mais aussi leurs députés européens, n'est-ce pas, et ils font savoir qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Comme ça qu'on a gagné pour l'AMI. L'année dernière, il y a eu aussi l'ACTA. Oui, ils n'arrêtent pas. N'arrêtent pas. Mettez ça dans vos actions pour les 20 ans à venir. L'ACTA concernant le droit de propriété. Non, mais c'était droit de propriété. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? La quadrature du net et tous les jeunes qui étaient se mobilisés sur l'Internet, parce que c'était ça l'enjeu, ont réagi. Le Parlement européen a refusé. Voilà.
C'était donc, vraiment nous pas passé loin, mais oui. Effectivement, ouais, ça a fait pas mal de remous. Ouais.
Voilà. Il faut qu'on se mobilise. Il faut en parler.
Alors, moi, je finirai par une dernière question. Concernant le mot à dire des citoyens par rapport à ce traité TAFTA, en fait, au final, comment les citoyens pourront dire oui ou non à ce traité? Est-ce qu'ils auront un pouvoir par rapport à ça? Monsieur Mirza, si vous voulez répondre, Monsieur Bonnet,
ça a l'air cool.
Ouais. Alors, normalement, les citoyens ont déjà un pouvoir. Il ne faut pas oublier, parce qu'on nous dit que la Commission fait tout dans son coin, ce qui est vrai. Mais il n'empêche que le gouvernement, le Conseil européen, la Commission reçoit des directives du Conseil européen, c'est-à-dire nos gouvernements, notre président de la République et nos ministres, ils se réunissent. Ensuite, il y a auprès de la Commission européenne et les conseillers permanents qui sont là pour suivre tout le travail qui se passe à Bruxelles. Donc, il y a des choses. Alors ensuite, il y a, normalement, c'est le Parlement européen qui va voter. Donc, c'est là qu'il faut absolument intervenir pour que nos députés européens ne le votent pas. Alors sinon, il y a... Alors on va voir comment... Parce que vous savez que c'est des malhonnêtes. Hein. Normalement, lorsqu'il y a des discussions, des sessions mixtes, des questions... Le commerce est une compétence exclusive de la Commission. Ouais, c'est dire que les États ont renoncé à leur souveraineté, là encore. Hein. Donc, il y a uniquement, s'il y a des questions dites mixtes, que les parlements nationaux sont amenés à se prononcer. Et donc, il faut absolument, donc, par exemple, une incidente sur le droit du travail, manifeste, etc. Donc, il faudra que le Parlement national se prononce là. Et à ce moment-là, il faut absolument que nos députés se saisissent de la question. Alors, pour l'instant, tous ceux à qui on écrit, hein, sauf les écolos et le Front de Gauche, tous les autres bottent en touche. Hein. C'est très intéressant, faut pas, on verra ce que ça donne à l'arrivée, etc. etc. Il sera peut-être un peu tard, hein. Donc, ce qu'il faut, c'est absolument obtenir que nos députés, que les régions, c'est pas rien. Je vous signale quand même qu'à l'heure actuelle, plus d'une centaine, je crois la moitié des départements, un certain nombre de régions, PACA, Île-de-France, ont pris des résolutions anti-TAFTA, c'est-à-dire ça n'a pas de valeur législative ou réglementaire, hein, mais ce sont des collectivités, Bruxelles, la ville de Bruxelles, qui se disent « je suis contre le TAFTA ». Les marchands de livres, les libraires de Besançon, parce qu'ils ont bien compris que la politique du livre, c'est anti-TAFTA, hein, le prix protégé pour les livres anti-TAFTA. Donc, il faut absolument que tout le monde se mobilise, et là, il va y avoir des élections régionales. C'est le moment d'aller interpeller les conseillers régionaux, hein, puisque au niveau européen, le comité des régions a déjà réagi de manière très, très active. Donc, il faut mobiliser pour qu'on fasse connaître... notre désir de ne pas voir ce chose-là se mettre en place.
Merci beaucoup, M. Bonnet. Alors, pour résumer, donc, on a un traité TAFTA, donc, un traité TAFTA qui apporte des choses sur le point de vue de la croissance économique, mais pas dans tous les secteurs, et ça dépend du des pays aussi. On a aussi un traité TAFTA qui pour, par exemple, comme M. Mirzal l'a dit, pour les petits producteurs, pourrait être bénéfique au niveau de l'abaissement des normes. On a aussi, comme tout n'est pas noir ou blanc, des conséquences sur, bien sûr, l'agroalimentaire, hein, puisque les normes ne seraient plus les mêmes, et donc ça changerait peut-être quelque chose au niveau alimentaire, au niveau sanitaire. Et puis, on a enfin, avec les tribunaux arbitraux, des entreprises qui pourraient attaquer les États, mais des États qui n'auraient plus vraiment leur mot à dire. Enfin voilà, maintenant vous savez à peu près où ou pas, ou sur la question du TAFTA. Bien sûr, il y a encore plein de choses à dire, mais il est déjà l'heure de rendre l'antenne. Monsieur Mirza, une dernière chose à dire peut-être?
Oui, j'aimerais juste revenir sur ce que vous venez de dire. Les États qui n'auront plus leur mot à dire, je suis pas tout à fait d'accord. Encore une fois, il va y avoir plus indéniablement les entreprises, les multinationales seraient plus protégées, elles demanderaient des compensations qui passeraient par le tribunal arbitral. Ça, c'est indéniable. Et c'est une réussite, ça serait une réussite pour elles. Mais il ne faut pas non plus dire que les États n'auront plus leur mot à dire, ils n'auront plus de politique, ils ne pourront plus gouverner comme ils gouvernent aujourd'hui. Ça, c'est, pour moi, c'est entièrement faux. Ils continueront à faire des politiques. Mais c'est ex post, après avoir mis en place une politique, que les entreprises pourraient revenir là-dessus éventuellement.
Malheureusement, il est déjà l'heure de rendre l'antenne. On va s'arrêter là. En tout cas, je vous remercie. Merci à Ludivine, merci à Adelaide.
Merci, merci Marion.
Et merci à nos invités. Merci à M. Mirza. Et merci à M. Bonnet.